Bonjour à tous et à toutes. Bien, nous allons voir dans cette vidéo trois petites bricoles comme d'habitude qui vont vous permettre d'avancer un peu sur le chemin. Alors là, je suis allé sur Internet parce que je voulais avoir une définition, enfin, on va dire, simple d'accès du mot neutrino. En effet, si on va sur Wikipédia, etc., c'est très très scientifique et en fait, on comprend que dalle. Donc, je suis allé sur un site, je crois qu'il s'appelle Futura Science, enfin bon bref, et voilà la définition qu'il donne. Les neutrinos sont des particules élémentaires de masse pratiquement nulle qui sont engendrées par des réactions nucléaires. Tandis que le Soleil et autres phénomènes approchant produisent des neutrinos de basse énergie, les neutrinos de haute énergie sont produits par des cataclysmes cosmiques lointains et extrêmement violents, tels que les trous noirs, les supernovas et le Big Bang. Bien, donc avant d'aller un tout petit peu plus loin, maintenant commençons à décoder ce qui est raconté. Parce que, en fait, voilà, ils disent les neutrinos sont des particules élémentaires. Hein. Quand ils disent particules élémentaires, ça veut dire, quand ils disent de masse pratiquement nulle, ça veut dire qu'ils ne sont pas composés de matière. Donc ils ne peuvent pas dire que c'est de l'antimatière, parce que pour eux, l'antimatière détruit la matière. Enfin, l'annule. Donc, dans leur tête, ils peuvent pas parler d'antimatière à ce niveau-là. Donc, ils ont, quand ils ne peuvent parler que de matière, ils indiquent à ce moment-là le nom de particule. Et élémentaire, parce qu'elle est vraiment hyper méga simple, puisque ça fait partie, on va dire, des briques fondamentales de l'univers. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé les neutrinos, parce qu'ils sont neutres, ils ne savent pas d'où ça sort et ils ne savent pas à quoi ça sert. Qui sont engendrés par des réactions nucléaires. Qui dit nucléaire dit atome. Or, nous allons le voir dans les dessins qui vont suivre, hein, en force de petits rappels, que nous sommes, nous, à un niveau 3D, 4D, ce qu'on appelle de biologique. Mais en fait, quand nous allons vers notre soi supérieur, nous allons taquiner le côté atomique. Voilà pourquoi sur cette Terre, il y a ce qu'on appelle une grille atomique. Enfin bon, bref. Donc forcément, tout ce qui va toucher l'antimatière, définition spirituelle Laurent Duro, c'est la notion d'esprit. Et forcément, ça, par rapport à la matière, ils vont appeler ça des réactions nucléaires. Donc, tandis que le Soleil et autres phénomènes approchants produisent des neutrinos de basse énergie, ça veut dire que, ben, qu'ils ne sont pas trop énergétiques, ils n'ont pas de masse, donc, mais ils ont quand même de l'énergie, eh bien, ça veut dire que, grosso modo, le Soleil, qui est quand même d'une densité plus proche de nous, puisque c'est quand même lui qui nous éclaire, n'a pas la puissance, par exemple, d'un trou noir. D'accord? Donc, ici, ils mettent, les neutrinos de haute énergie sont produits par des cataclysmes, parce que c'est forcément des cataclysmes qui peuvent arriver, alors cosmiques, hein, forcément, lointains, hein, très 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 loin, puisque quand on parle du trou noir du centre de la galaxie, c'est forcément vachement loin, parce que il est censé que les trous noirs absorbent tout, et que si on est au bord du trou noir, notre durée de vie, ainsi que celui de la planète, serait absolument très courte. Donc, il vaut mieux que le trou noir soit très 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 loin. Or, tout le monde sait qu'un trou noir, c'est un truc qui tourne, hein, vous savez, comme le siphon, enfin, je veux dire, comme quand votre œillet se vide, eh bien, le siphon, il avale tout, c'est un trou noir. Et donc, noir, pourquoi? Parce qu'il absorbe toute la lumière. Alors, c'est gênant, mais comme vous savez qu'en fait, dans la réalité, puisque vous suivez la musique, enfin, je l'espère, de mes délires depuis un certain temps, qui dit trou noir dit de l'autre côté un trou blanc. Mais comme nous sommes inversés, nous voyons tout noir. Mais en fait, c'est plein de lumière. Mais vu de l'autre côté, c'est nous qui sommes noirs. Enfin bon. Donc ça, vous savez tout ça. Alors bien sûr, les supernovas, puisque bon, les trous noirs correspondent à une galaxie, les supernovas, bah, ça va un tout petit peu plus loin. Et le Big Bang. Alors là, bah, vous savez que le Big Bang n'existe pas, que c'est un concept qui est complètement erroné, comme du temps où on disait que la Terre était plate. Le Big Bang, c'est simplement la respiration, hein, on va dire, de la galaxie. Car, comme je vous l'ai dit, il y a un inspire et un expire. Donc, la création respire. Donc, ben, quand elle inspire, on appelle ça un Big Bang, et quand elle va, on va dire, expirer, là, ils vont être gênés. Hein. Il va falloir qu'ils trouvent un Big Bang inverse. Alors là, ils vont vraiment flipper à mort. Alors, je vais vous dire sincèrement, les astronomes ont trouvé des régions de la création qui, entre guillemets, sont l'anti-Big Bang. Mais ça ne peut pas coller avec le Big Bang, donc tout le monde ferme sa gueule et tout le monde marche droit derrière l'étendard Big Bang, sachant qu'ils ont vu que certaines parties de la création étaient en rétraction et non pas en expansion. Alors ils se sont dit, ouais, bon, il y a peut-être des trous noirs locaux, hein? Enfin bon, les scientifiques font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, comme on dit, mais voyez qu'ils ont une vision extrêmement matérialiste des choses. Donc pour eux, l'esprit, ça n'existe pas. Hein? Sous le microscope, ils ne verront jamais une particule d'esprit. Alors donc, ils disent, voilà, il y a des particules. Alors, une fois engendrés par ces cataclysmes cosmiques, les neutrinos se déplacent à une vitesse proche de la lumière. Mais pourquoi? Parce que, eh ben, d'après toutes les équations, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Sauf que ça, c'est une limitation qui a été donnée par rapport à la matière de 3D, 4D, mais qui, dans les autres dimensions, ne veulent foutrement absolument rien dire. Donc, ce qui veut dire que les neutrinos se déplacent à une vitesse largement, largement, largement supérieure à celle de la lumière, d'abord, dans un premier temps, mais comme ils considèrent que ce sont des particules, donc des objets, des trucs costauds, ça ne peut pas dépasser la lumière. Donc, ils sont embêtés. Et ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire rien ne peut arrêter un neutrino. Ils passent et rien, absolument rien, ne peut les arrêter. Donc leur masse étant virtuellement nulle, alors quand ils disent virtuellement, hein, ça veut dire que c'est du flan, ça n'existe pas, hein, ils n'interagissent que très rarement avec d'autres particules, ce qui leur permet de se déplacer en ligne droite jusqu'aux frontières de l'univers, traversant les étoiles, les planètes, de vastes champs magnétiques et des galaxies entières, comme si ceci n'existait pas. Bon, donc ça veut bien dire que c'est pas de la matière. Ah, mais ça, ils sont embêtés. Hein, ils sont embêtés avec leur règle que l'antimatière annule la matière. Donc, ils ne peuvent pas dire que c'est de l'antimatière. Mais bon, c'est pas de la matière, mais c'est pour eux pas de l'antimatière. C'est de la non-matière, mais elle existe quand même. Enfin bon, ils sont un peu gênés. Hein. D'accord. Alors, ils disent des trillions, hein, donc c'est quand même des méga millions, de neutrinos traversent la Terre toutes les nanosecondes. C'est-à-dire, nanoseconde, c'est 10 moins 9 secondes. Une seconde, c'est déjà pas lourd, mais alors un milliardième de seconde, c'est encore là vraiment très 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 petit. Et il vous parle de trillions, hein. C'est-à-dire de milliards de milliards de milliards de neutrinos qui passent à chaque milliardième de seconde. Et encore, c'est approximatif, puisqu'ils n'arrivent pas franchement à les détecter. Et pour les astrophysiciens, chacune de ces particules infimes constitue un messager, hein, c'est très intéressant, potentiel, transportant des informations sur son origine, hors de devenir un neutrino d'après vous. Eh bien, ça vient tout simplement de la source, c'est-à-dire que ce que nous appelons l'îlot central. Donc l'îlot central, c'est là où il y a, on va dire, la source même de toute la création et qui envoie son rayonnement tel un soleil sur tout ce qui est autour. Donc elle envoie son rayonnement dans le premier super-univers, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Et dans ce septième super-univers, il y a des milliards de galaxies qui s'en ramassent et dans toutes ces galaxies, ben, il y a forcément un trou noir au milieu qui récolte tout ça et qui redistribue à tout le monde. Donc, résultat concret, ils n'osent pas dire, vous voyez, un messager potentiel transportant des informations. Donc, ils ne sont pas loin de la vérité. Ils disent le neutrino possède des informations, mais comme ils ne sont pas dans la nature de l'esprit, ils disent, mais quelle information pourrait-il transporter? Donc, ils sont un peu coincés. Hein. Donc, je fais exceptionnellement, je vais dire, un petit passage par rapport aux définitions, on va dire, des scientifiques pour vous montrer qu'ils découvrent bien des vérités, mais à cause des étiquettes. Et on va dire des concepts plus ou moins erronés et qui sont figés, étant donné qu'ils les prennent pour référence, eh bien, bah, le résultat, ils sont obligés de se contorsionner à mort pour dire, voilà, ça existe, mais on ne peut pas vous dire ce que c'est, parce qu'avec les mots et les concepts qu'on a, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Mais on sait que c'est là. Bon, c'est déjà pas mal, hein? Le problème qui se pose toutefois aux scientifiques est que les propriétés mêmes qui permettent aux neutrinos de transporter ces informations les rendent notoirement difficiles à détecter. En clair, on ne sait pas ce que c'est quoi l'information. Heureusement, il arrive qu'à de rares occasions, un neutrino de haute énergie entre en collision avec un atome. La collision désintègre le noyau de celle-ci et le neutrino se transforme en une autre particule appelée muon, comme s'il avait mué, hein. Ainsi, le muon ainsi créé continue son déplacement sur une trajectoire identique à celle du neutrino et peut être reconnu grâce au cône de lumière bleue qu'il engendre. Connu sous le nom de radiation de machin truc, ce cône peut être comparé aux ondes produites dans l'air traversées par une balle. Bon, c'est clair, il y a un atome qui s'est fait éclater parce qu'il il devait se faire éclater tout simplement. Mais ils disent que c'est quand même très 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 rare. Donc quand nous avons des milliards de milliards de milliards de neutrinos toutes les milliardièmes de seconde et qu'il y en a un de temps en temps, alors imaginez combien ça fait en statistique, en probabilité, c'est nul. Enfin, à notre niveau, c'est absolument nul. Donc maintenant que vous connaissez la définition, on va dire officielle, du neutrino, enfin quelque chose pareil, hein, vous comprenez qu'ils ont bien découvert qu'il y avait quelque chose et je me suis amusé, entre guillemets, à aller voir un petit peu ce qui se passait et puis j'ai vu, comme tout le monde, hein, j'ai définition précédente, neutralino. Alors là, waouh! Alors, il y a les neutrinos, je clique sur neutralino et qu'est-ce que j'ai? Particules supersymétriques neutres. Donc ça veut dire que c'est une polarité. Quand il dit supersymétrique, c'est qu'elle est vraiment en équilibre dans tous les sens, hein, que vous la regardez, et neutre. Ça veut dire ni plus ni moins. Alors là, j'irai à ne pas confondre ni associer au neutrino. Elle résulterait d'une superposition mélange quantique, forcément, hein, de partenaires. Alors là, supersymétrique des particules. Alors oui, c'est super sévère, des particules. Alors, vous savez, quand on dit moi de partenaires supersymétriques, des particules, on appelle ça l'androgynie, hein, mais bon, il faut quand même mettre des mots scientifiques. De l'interaction électrofaible, hein, c'est-à-dire que l'interaction électrofaible, bon, bah, vous avez l'électroforte, hein, puis vous avez, je ne sais plus, la gravitation, mais en fait, on va voir que tout ça, ce sont des mots scientifiques mis sur l'aspect magnétique des choses. Hein, c'est plus ou moins fort. Alors, massive et stable, c'est un candidat idéal pour la matière noire. Ce qui veut dire que nous, ce qu'eux, ils appellent la matière noire, c'est nous ce que nous appelons la lumière. Pas celle que l'on voit avec les yeux, mais celle qu'on ne voit pas avec les yeux, mais quand même qui nous frappe et qui est plein de tout ce qui nous entoure. C'est pour ça que le cosmos, quand on le regarde, il est noir avec des petits points blancs. Dans la réalité, c'est des points noirs parmi une lumière immense. Donc, juste pour vous faire comprendre que l'aspect scientifique des choses est très très intéressant, il est vraiment très, on va dire, sublime d'aller visiter comment ils se contorsionnent pour arriver à nous dire une vérité qu'ils interprètent d'une manière absolument fausse. C'est, on va dire, fausse. Falsifiés dans le sens qu'ils ont des concepts qui sont absolument faux. Voilà, c'est tout. Bien, donc maintenant que vous savez ça, eh bien, nous allons passer à quelque chose de plus simple. Et donc, je vais reprendre des planches, des dessins que j'ai fait, hein, parce que je ne vais pas recommencer le fil à couper le beurre à chaque fois, réinventer. Eh bien, ici, je repars d'un truc relativement simple, mouvement et vision torique élémentaire. Donc vous savez que tout dans l'univers a cette fonction de tore, hein, c'est-à-dire que ça crée, on va dire, un espèce de vortex, parce que c'est un vortex, hein, tout simplement. Un vortex est un tore qui est manifesté d'une certaine manière sur le plan de l'énergie. Et ça nous donne ceci, hein, donc je ne vais pas réinventer tout le truc, enfin tout vous redébiter, vous connaissez la musique, d'accord, hein. Alors maintenant, ce que nous allons voir, c'est l'aspect que je vous avais déjà parlé. Donc là, je reprends la chose, et quand on regarde un tore sous cet angle-là, nous voyons que c'est tout simplement, il y a deux plans parallèles, hein, ça fait des couches d'oignons. Et donc ces couches d'oignons, alors là, bon, c'est mis à l'horizontale, mais bon, si je mets à la verticale, comme ici, eh bien, vous avez des couches d'oignons, donc un emboîtement des tores, donc un emboîtement des dimensions, donc un emboîtement des cubes. Car vous avez compris, je l'espère, que l'aspect torique, c'est quoi? C'est là simplement l'aspect féminin. Eh oui, tout en rondeur. Et donc cet aspect féminin est un aspect magnétique. Alors que quand c'est pas en rondeur, on va dire c'est cubique, hein, c'est-à-dire c'est les droites, c'est les angles, c'est les trucs, c'est tout simplement un aspect masculin. Alors nous savons quand il y a une couche de ion, bah, que d'un côté il y a un trou noir, mais en fait de l'autre côté il y a le trou blanc. Mais ce n'est que de l'énergie qui passe, on va dire de l'information qui passe, parce que il y a des lignes de champ magnétique, hein, qui sont représentées ici. Ces lignes de champ magnétique, bah, elles sont là. Et donc forcément, il y a une polarité, hein, il y a forcément un mouvement qui est créé. Et ce mouvement bah, va permettre le transport d'informations. Voilà, donc ce transport d'informations, eh bien, bah, on va voir comment, hein, je vous l'ai déjà écrit dans l'article, comment il se passe véritablement. Donc maintenant, allons un tout petit peu plus loin. Regardons que la constitution du côté de chez nous, c'est-à-dire que il y a l'aspect, donc toujours, par exemple, là je prends la planète, hein, bah, elle est dans un tore. C'est la partie matérialisée à l'intérieur d'un tore. Donc il y a bien les champs magnétiques de la planète. Il y a bien sûr les champs magnétiques de la galaxie, hein, car tout dépend de la taille que l'on regarde. Donc ici, quand vous aviez, donc ça c'est le symbole de l'espace-temps, ben, quand vous avez le Soleil central, hein, le Soleil central est le trou noir qui est là, mais en fait dans la réalité, au niveau du temps, le trou blanc est là. Mais bon, passons. Ici, vous avez l'espace-temps correspondant à la galaxie. Ici, quand on vient entre donc, du Soleil central à l'individu, ici, quand on regarde entre le Soleil et l'individu, nous avons un autre espace-temps qui est celui de la planète. Et donc c'est bien le Soleil qui va créer cet espace-temps. Hein. Donc cet espace-temps est valable pour bien sûr le système solaire. Hein. Donc nous, notre espace-temps au niveau de la planète se fait en fonction du nombre de rotations que la planète fait sur elle-même. Et nous voyons même qu'à l'intérieur de cet espace-temps, on va dire de la planète elle-même, eh bien il y a, on va dire, trois autres espaces-temps. Qui correspondent, excusez-moi, aux trois moteurs que nous avons, c'est-à-dire la 1D, 2D, le moteur de la Terre, 3D, 4D, le moteur de l'humain, 5D, 6D, le moteur du ciel. Donc nous sommes, au niveau du corps, nous-mêmes, dans un temps. Donc on voit, c'est la même structure partout, simplement nous, enfin quand je dis nous, notre corps est un assemblage de trois moteurs, un qui est connecté, on va dire, à la Terre, un deuxième qui est connecté à l'esprit, c'est-à-dire la matière et l'antimatière, et vous avez au milieu le moteur de l'humain qui, lui, se balade dans sa 3D, 4D. Voilà. Donc, nous savons qu'au niveau de la planète, eh bien, nous avons plusieurs, enfin, ce qu'on appelle grilles. Vous avez donc une grille dite magnétique. Cette grille magnétique a pour objectif de, bien sûr, faire passer tous les messages que nous recevons de la part de l'esprit, de la part du sans-nom, de la part de la source. C'est-à-dire que toutes ces informations qui sont envoyées via les neutrinos vont être captées par tous les pranas qui se situent forcément dans la grille magnétique. Car qu'est-ce que sont les pranas? Ce sont des mini-tores. Ce sont des mini-tores, des mini-vortex, c'est pour ça qu'ils ont une énergie, qu'ils ont une information, enfin LVU, tout simplement. Donc c'est un aspect très féminin, et donc comme c'est très féminin, vous savez que le féminin c'est une vibration, et que cette vibration généralement, eh ben, c'est pas de la matière. Et donc voilà pourquoi le prana, on ne le voit pas sous le microscope. Hein, donc vous voyez, féminin, vibration, information, temps. Ah, très intéressant. Et c'est pour ça que plus nous allons entrer dans l'aspect féminin des choses, et plus la notion de temps va s'évaporer. Donc, nous le verrons ici, enfin nous l'avons déjà vu, j'en ai déjà parlé N fois, c'est que quand nous regardons ici un niveau de l'espace-temps de 3D, 4D, vous savez que la partie jaune, hein, ça correspond en fait à la partie bleue ici, le triangle bleu, eh bien ça correspond à l'aspect matériel et c'est un temps extérieur. D'accord? Donc ici, quand nous sommes ici, nous prenons la notion de temps extérieur et c'est pour ça qu'on dit, voilà, il y a une heure, il y a un jour, il y a un mois, il y a un an, il y a ceci. C'est un temps qui est fait en fonction de la matière qui bouge. Or, cette matière qui bouge, c'est quoi? C'est une géométrie. c'est une matière, c'est un espace, et c'est ce qui correspond au masculin. Et donc, ceci correspond à ce qu'on appelle une grille atomique, car, je vous rappelle, nous sommes basés sur l'atome. Le composant, vous savez, atome, ça vient de atomos, l'élément le plus petit, mais bon, à l'époque, il y avait encore plus petit, mais c'est la brique de base pour fabriquer des molécules qui, elles-mêmes, ensuite, fabriquent des cellules, qui, elles-mêmes, fabriquent ensuite un corps biologique. Mais donc, s'il n'y a pas d'atome, il n'y a pas de biologie. Donc, nous sommes bien incarnés dans un corps de matière basé sur l'atome. Après, ben on le verra, ce sera des dessins un tout petit peu plus loin, on verra que l'atome est lui-même constitué, bien sûr, de d'autres éléments, tels que les électrons, protons, etc. Et ces mêmes éléments sont eux-mêmes fabriqués à partir d'éléments encore plus petits. Et nous allons voir que plus nous allons dans l'infiniment petit, et plus, en fait, nous nous rapprochons de la source. Mais bon, donc il y a la grille atomique et ensuite il y a la grille cristalline. Alors on va dire, voilà, voilà, mon coco, là moi je vais commencer à plus rien y comprendre. Eh bien, c'est simple. Ici, vous avez l'aspect féminin, l'aspect magnétique des choses. Ici, vous avez l'aspect masculin des choses. Et ici, la grille cristalline, ça sert à quoi? Ah, eh oui. Parce que ici, il y a une association qu'il faut comprendre. C'est que la grille magnétique, elle reçoit l'information de la source via ce qu'on appelle les neutrinos. Et le support physique, entre guillemets, de cette information s'appelle tout simplement le prana, les particules adamantines et donc en fait l'aile vive. Et donc, comme c'est une vibration, elle n'a besoin d'aucun support, elle rayonne partout. Par contre, quand vous êtes dans une géométrie, il vous faut quand même, comme dirait l'autre, si j'ai une bagnole, s'il n'y a pas de route, je suis gêné. Donc il faut une structure pour que l'information puisse passer. Puisque ici, on va déplacer de la matière, on va déplacer des formes, on va déplacer, on va dire, des bits de données à travers des tuyaux. Parce qu'il n'y a pas les tuyaux, ça ne sert à rien. Donc, le résultat, il y a une grille cristalline. La grille cristalline est là pour distribuer l'info. Ah ! Donc, nous voyons qu'il existe deux modes de communication, on va dire principalement dans la création. Il y a un mode de communication féminin, on va dire magnétique, et donc ça c'est la source en direct, c'est l'îlot central qui envoie toute la sauce et qui va être récupéré par le prana. Et vous avez la partie ici qui va correspondre à l'aspect masculin des choses, c'est-à-dire à l'aspect géométrique et qui a besoin d'un support. Donc, cette grille cristalline, hein, nous le verrons, eh bien, distribue l'info, mais au niveau aussi bien de l'intra-terre, de la Terre, mais aussi du système solaire, mais aussi de la galaxie entière, qui elle-même est connectée au réseau cristallin de tout le super-univers. C'est-à-dire que, grosso modo, voyager sur la grille cristalline, ça veut dire que c'est une conscience incarnée qui va pouvoir se balader partout dans la création. Alors que sur le plan magnétique, ben, vous ne pouvez pas vous balader d'une certaine manière avec votre esprit. Puisque ici, d'une certaine manière, c'est votre esprit qui va s'en faire ramasser une. Et quand je dis votre esprit, c'est l'aspect antimatière, cette antimatière va jouer sur quoi principalement par rapport à votre corps physique par exemple? Eh bien, c'est tout simplement votre ADN. Votre ADN n'est tout simplement que l'interface qui perd entre le masculin, enfin, on va dire, entre cet aspect magnétique de l'information qui arrive de la source et l'aspect géométrie de vous-même. Donc voilà pourquoi, quand nous recevons de la source, entre guillemets, de la part du soleil central, etc., etc., notre corps, notre moteur de la Terre, lui reçoit tout le paquet d'infos et il va faire en sorte pour que il puisse actualiser dans toutes les cellules, puisque dans chaque cellule il y a un ADN, eh bien, instantanément, toutes les cellules sont au courant de ce qu'il doit faire. Le problème, c'est que ces cellules sont aussi, bien sûr, sous le commandement, hein, vous voyez, c'est comme deux engrenages, sous le commandement du mental, qui lui-même, théoriquement, est sous le commandement de la petite voix. Et cette petite voix n'est entre autres que votre soi supérieur. Mais si vous n'écoutez pas votre soi supérieur, donc, on va dire, vos intuitions, vos ressentis ou votre petite voix, eh bien, ici, vous bloquez tout le phénomène ici. En bloquant tout ça, eh bien, vous allez vivre basiquement. Et c'est pour cela qu'il y a des personnes qui vont pouvoir ascensionner d'une manière totalement inconsciente. Ascensionner veut dire augmenter sa fréquence. Le seul truc, comme je vous l'avais dit hein, dans un article, eh bien, puisque c'est fait d'une manière inconsciente, il va avoir un problème, on va dire, mental important, puisqu'il va progressivement changer son fonctionnement de son corps et de ses réactions vont changer, alors que lui n'aura pas changé sa géométrie. Donc là, il va avoir un problème. Hein. Donc, quelque part, il va péter les plombs, arriver à un moment, parce qu'il y aura trop de différence entre les filtres qu'il a, la façon dont il regarde le monde, et comment il vit la chose. Parce que, en fait, en se faisant canarder, on va dire, par les neutrinos, et donc en respirant forcément de l'air vivre, eh bien, nous allons obligatoirement changer. Que vous le vouliez ou non. Alors, si vous dites non, je ne suis pas d'accord, vous vous mettez en résistance, et le fait de vous mettre en résistance fait que vous allez vous user beaucoup plus vite. En d'autres termes, votre corps physique va se dégrader car vous bloquez, entre guillemets, sa capacité à pouvoir s'actualiser. Donc forcément, arrive un moment, il va dire « fais chier, point barre ». Et donc, vous allez claquer d'une maladie rare ou d'une maladie cardiaque, enfin n'importe quoi, mais en fait, de toute façon, vous allez trépasser d'une manière ou d'une autre. Alors vous allez me dire « ouais, mais de toute façon, on va tous y aller, il n'y a pas de souci, simplement la différence, c'est la vitesse à laquelle on va y aller ». D'abord, et la deuxième chose, à quel niveau de fréquence vous serez arrivé quand votre corps va vous lâcher. Donc, en d'autres termes, le kilométrage. Donc, plus vous aurez de kilométrage au compteur, comme on dit, et plus eh bien, vous aurez de chance d'avoir une voiture en conséquence. Si par contre, dès les 20 premiers kilomètres, vous avez cassé la botte de vitesse, vous allez pas aller loin, et on vous redonnera à ce moment-là une trottinette. Alors, je reviendrai dans un article vidéo ultérieur sur cette fameuse grille cristalline, car ici j'avais forcément mis, on va dire, juste un petit détail, hein, enfin on va dire l'essentiel pour pas compliquer les choses, parce que déjà ça peut paraître compliqué, mais disons qu'il y a une progression et à fur et à mesure qu'on va avancer, on va pouvoir en donner un tout petit peu plus. Mais comprenez que toute l'expérimentation de l'individu, d'une entité, entre guillemets, passera par la communication sur la grille cristalline. Alors maintenant, voyons un tout petit peu plus loin l'aspect, on va dire, torique magnétique de la galaxie. Donc ça, je vous en ai parlé, donc j'ai repris mon dessin gentiment comme ça, et il est évident que si nous regardions la galaxie pour ce qu'elle est, eh bien, nous aurions à peu près une photo comme ça. Alors, ça serait une photo magnétique. Hein ? Et donc, ces volutes que nous voyons là ne sont en fait que de l'information et des couleurs. Car vous savez que, comme nous sommes sur des fréquences, des dimensions différentes, eh bien, nous ne verrons pas les mêmes couleurs selon la dimension dans laquelle nous sommes. Donc, quand l'îlot central, quand la source des sources, entre guillemets, envoie la saucissette, y a tout le monde qui prend pour son grade, hein, on est d'accord, et ça se distribue, parce que comme c'est un mouvement, rotatif et qui bien sûr pénètre en plus à l'intérieur, eh bien tout le monde se fait brasser et c'est normal. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement de comment la source nous adresse la totale. Alors il est évident que chaque galaxie étant un jeu, elle a ses règles. Et donc ça veut dire des fréquences spécifiques avec certaines lois plutôt que d'autres, etc. etc., etc. Et donc c'est pour ça que quand un esprit vient dans une galaxie, eh bien, il est emmené dans un tourbillon pour arriver en fait quelque part sur un caillou, sur un caillou dans le monde minéral, sur une planète quelque part dans ce système. Et donc cet aspect ici, nous avons compris, c'était l'aspect féminin des choses, hein, l'aspect vibratoire où l'information vibratoire est transférée. Et bien, vous allez avoir forcément, on va dire, un aspect, enfin une concrétion, c'est-à-dire un aspect concret des choses, c'est-à-dire que autant ça c'est la partie magnétique, autant ça sera la partie, on va dire, physique, que nous allons voir avec nos télescopes sous cette forme, tout simplement. Donc on verra une galaxie, alors forcément ça tourne, puisque ça tourne, donc forcément la matière elle va suivre le mouvement et vous allez donc trouver en fait une galaxie sous une forme globalement spiralée. Hein. Et donc selon la distance physique où vous êtes par rapport à, on va dire, au trou central, eh bien vous allez avoir un certain temps pour que l'information arrive. Or le problème, c'est pas limité par la vitesse de la lumière. Donc ça vient quand même relativement très vite. Et c'est pour cela que notre planète, notre système solaire se trouve sur un des bras, alors c'est pas la nôtre mais c'est pas grave, sur un des bras en périphérie, c'est-à-dire loin de la grosse perturbation centrale. Alors cette perturbation centrale, en fait, c'est que plus nous sommes proches du cœur et plus en fait on se fait canarder lourd, parce que comme vous imaginez que là ça concentre énormément. Donc plus on est loin, moins on s'en prend. Ça veut dire que c'est beaucoup plus doux. Or, pourquoi la Terre, enfin le système solaire est-il assez loin, on va dire, enfin plus proche du bord, mais du bord, pas du bord ici, mais du bord par là, c'est-à-dire loin de l'axe, c'est parce que tout simplement l'expérience involutive n'aurait pas été possible si on avait été trop proche de l'axe central. Pourquoi? Parce que la force de l'information est telle que nous aurions, comment dire, nous n'aurions pas pu descendre si bas dans la coupure d'avec nous-mêmes, puisque notre corps se serait automatiquement mis à niveau, qu'on le veuille ou pas. Là, en étant loin, et avec toutes les protections inimaginables, nous avons réussi à faire de la descente en très grande profondeur, on va dire. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'il y a, on va dire, un rapport entre la distance de notre système solaire par rapport au Soleil central. Il y a aussi des interactions qui vont se créer. Parce qu'il y a, bien sûr, on va dire, la science de l'homme, et puis il y a l'autre science, la science de l'invisible que j'appelle. Et donc, cette science de l'homme, il dit, voilà, maintenant, moi, petit Ourantien, avec mon télescope, je vois des étoiles partout. Et j'identifie des galaxies partout. Alors, je me suis amusé l'autre jour à aller voir, je me dis, bah, tiens, Vega. Ah oui, Vega, ouais, c'est dans la constellation de la Lyre, formidable. C'est où ça? Est-ce que c'est dans la galaxie ou pas? Alors là, on vous parle de Vega, on vous parle de la constellation de la Lyre. Mais il n'y a aucune information pour vous dire si c'est dans la galaxie ou pas. Donc, bah dans ce cas-là, quand vous n'arrivez pas à choper l'information, bah vous allez faire toc-toc aux copains, à vos guides de l'invisible, vous dire, bon, écoute, là, je comprends pas très bien. Enfin, c'est pas que je comprends pas, mais l'information n'est pas disponible. Dis-moi, Vega, est-ce qu'elle est dans le jeu ou est-ce qu'elle n'est pas dans le jeu? Dans notre jeu, nous, vous rentrions. Et la réponse a été comme d'habitude, oui et non. Vous savez, la réponse de Normand, quoi. Donc, bon, on va dire, bon, maintenant, on va regarder le côté oui, puis après on va regarder le côté non. Hein, d'accord? Alors elle me dit, ben voilà, sur le plan matière, sur le plan de la matière, Vega n'est pas dans la galaxie. Vega se situerait en bordure, ici, par là. Mais elle n'est pas dans la galaxie. Et, d'accord. Et d'ailleurs, l'humain, il regarde tout à distance, mais comme il ignore absolument tout le côté magnétique de la galaxie, il n'a pas cette configuration-là, eh bien, il ne sait pas. Donc, comme il ne sait pas, il y a telle constellation qui est en plein dans la galaxie, il y a une autre constellation qui est plein dans le temps, puis des constellations qui sont là, et puis il prend tout ça, et il se dit, voilà, on est dans un espèce de truc. Alors, selon la distance, alors on se dit, tiens, s'il y a telle planète qui est là, bah, enfin, je veux dire, pas trop loin, elle est chez nous. Si elle n'est pas dans la Voie lactée, c'est qu'elle n'est pas chez nous. Enfin bon, vous imaginez un peu le bordel. Et en fait, il y a une incompréhension notable sur comment ça se passe véritablement. Donc, le truc, c'est pour ça qu'ils avaient parlé des univers bulles, hein, je suis en passant comme ça, et en fait, ils n'ont pas tort. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas compris l'architecture des bulles. Mais bon, ça, c'est leur problème à eux de découvrir. Donc, ce que je voulais dire, donc, d'après le plan de la matière, l'aspect géométrique, eh bien, Vega ne serait pas dans la Voie lactée, c'est-à-dire dans notre galaxie. Bon, j'avais posé ça comme question pour une raison relativement très simple. Mon grand chef est de Vega. Donc, je me suis dit, donc, si il ne fait pas partie de la galaxie, il n'est pas dans notre jeu, donc il n'a pas certaines contraintes à respecter par rapport à nous, dans le sens où on le considère comme un extra-galactique. Pas un galactique, mais un extra-galactique. Donc, ça amène un certain mode de fonctionnement. Donc, je ne vais pas dans les détails, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo maintenant. Un jour, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais le truc, hein, je vous rappelle que une galaxie, c'est un jeu. Donc, si c'est le jeu A, ce n'est pas le jeu B. Donc, si l'entité n'est pas dans le jeu A, elle ne pourra pas jouer le jeu A. Et si elle vient mettre les pieds dedans, elle n'aura pas le droit d'interagir. Donc, c'est pour ça que je m'en posais des questions, comme on dit. Et j'ai dit, bon, ok, d'après les hommes, hein, Vega n'est pas dans la galaxie, et donc, mon chef n'est pas un joueur du jeu. Voilà. Après, j'ai dit, bah écoute, c'est quoi le nom? Ben, il dit, voilà. Si tu considères l'aspect magnétique des choses, Vega est dans la galaxie. Et donc dans ce cas-là, ben, mon grand chef est un joueur, comme moi je suis aussi un joueur. Ah, on ne joue pas au même niveau, mais on est quand même du joueur du même jeu. Alors là, ça commence à changer un tout petit peu la façon de voir, comprenez. Et je dis, comment ça joue? Ben, il dit, c'est simple. Eh bien, comme ici, ce sont des champs magnétiques, c'est un tore, hein, donc un vortex qui tourne. Eh bien, le truc, c'est que toute l'information qui est disponible, qui est en interaction, enfin, qui est à l'intérieur de ce tore, va forcément transmettre l'information au cœur qui va renvoyer. Résultat concret, eh bien, nous avons quelques constellations qui, effectivement, influencent le fonctionnement de notre jeu, alors que d'autres constellations ne l'influencent absolument pas parce qu'ils sont, ils font pas partie du tore. Donc voilà pourquoi, quand on regarde les cartes du ciel avec, vous savez, tous les animaux, machin, truc, avec les constellations, machin, truc, eh bien oui, certaines sont en interaction avec nous, mais d'autres sont absolument neutres. Point barre. Et donc, quand on a cette information, on peut comprendre à ce moment-là pourquoi certaines sciences astrologiques sont limites, d'ailleurs, comme la science l'est dans ses définitions et sa vision assez, on va dire, ratatinée des choses. Donc j'espère que vous avez compris le schéma général, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le prana que nous recevons, et donc, hein, que nous ingérons, puisque si nous n'avions pas de prana, on serait mort. En effet, la plante, entre guillemets, capte le prana. La plante, ensuite, est soit mangée directement par l'individu en disant quelle bonne salade ou quelle bonne tomate, ou soit est bouffée par le mouton qui finira en méchoui. Mais si l'homme se tape une tranche de méchoui, hein, une tranche de gigot ou quelque chose, c'est pour bouffer le prana qui était dedans. Mais vous imaginez bien que la concentration y est beaucoup plus faible. Parce que bien sûr, tout simplement, le mouton se sera quand même servi au passage pour quand même essayer de faire de la viande. Enfin, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'il est préférable d'être plutôt le plus proche possible du côté végétal. Hein, pourquoi? Parce que l'information, comme dirait l'autre, le cycle est. Enfin, vous êtes plus proche, donc vous avez une concentration beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que il y aurait. Tout le monde nous dit, ouais, les trucs bio, les machins, etc. Mais en fait, ils ont d'autres informations qu'ils n'ont pas en leur possession, et que qui s'appellent les centrioles. Alors je sais que ça peut être nouveau pour certains d'entre vous, mais en fait, dans la réalité, eh bien, une plante ne peut grandir que si elle suit un schéma magnétique. Eh oui, la géométrie ne peut se développer qu'en suivant une structure qui est déjà dans la non-matière. Or, cette structure qui est dans la non-matière, eh bien, elle est toujours là au niveau de la plante. Et c'est pour ça que ces particularités des plantes, ou des arbres, ou des fruits, de ce que vous voulez, fait que si nous les mangeons le plus frais possible, et je dirais quasiment sur place, à l'image, c'est qu'on va dire, hein, d'un herbivore qui broute, si vous broutez directement l'herbe, vous allez avoir le top du top du top. Alors, je vais me dire, c'est sûr qu'un jour, vous allez voir une salopette bleue à quatre pattes en train de brouter l'herbe dans le champ. Vous allez dire, là, quand même, il commence à disjoncter lourd, le petit. Mais dans la logique, c'est ce que nous devrions faire. Bon, alors, cette herbe, ça pourrait être une laitue, on est d'accord. Ça pourrait être quand même enfin, une tomate, ça pourrait être une pêche dans l'arbre, ça pourrait être ce que vous voulez. Mais une chose est claire, c'est que quand nous mangeons directement, on va dire, la chose, sans la couper, sans faire quoi que ce soit, nous avons le maximum, du maximum, du maximum. Vous allez me dire, avec tout ce qui tombe du ciel actuellement, comme ça le prix, vaut mieux quand même laver un peu avant. Bon, allez, passons. C'était juste un petit détail. Donc maintenant, eh bien, ce que je voulais vous parler, maintenant que vous avez compris ça, je vais faire un petit ajout supplémentaire. Hein, parce que bon, il faut quand même, quelque part, c'était de regarder quelle était la hiérarchie qu'il y avait entre toujours ce soleil central, le soleil, la planète et donc les individus. Donc il y avait fait, effectivement, ici j'avais mis l'un, parce que effectivement, tout ce qui arrive à travers le soleil central, ici qui est donc Alcyone pour nous, eh bien c'est l'un qui vient quoi. Donc c'est vraiment la source et ça vraiment ça rentre dans la galaxie. Et ensuite, eh bien forcément, quand les neutrinos passent, ben, bien qu'ils n'interagissent pas avec la matière, ils sont influencés par les champs magnétiques des différentes planètes. Forcément. Et donc forcément, c'est comme cela que notre Soleil est capable de filtrer un certain nombre d'informations et de nous les restituer, comme la Lune le fait aussi. Car l'information qui est donnée par la Lune est une information filtrée qui lui arrive du Soleil, principalement. Hein. Mais pas seulement, puisque les neutrinos la frappent aussi, donc on se fait arroser quand même. D'où cette notion, on va dire, de thème astral, hein, c'est-à-dire de dire au moment de votre naissance, vous étiez dans des prédispositions avec une information précise et que c'était celle-là et pas une autre. L'autre chose que je voulais donc aussi vous dire par rapport à ça, c'est que il y a ici donc le grand soi, le petit soi, vous connaissez toute la musique maintenant, il y avait donc cette vision féminine de la vie vers la mort, c'est-à-dire où il y avait la lumière et enfin on part du blanc pour aller au noir, et une vision 3D où on part du blanc ici pour arriver au noir ici. Mais en fait, le schéma est inversé, hein, purement et simplement. Et on voit bien que la vision 3D ici, c'est on voit la Terre, la Lune, dame nature, puis après, ben, on passe au système solaire. Donc on voit que quand nous parlons par exemple du soi supérieur, nous parlons au niveau d'un système solaire. Donc quand on dit parler à son soi supérieur, c'est aussi, ça veut dire aussi se reconnecter à l'arbre de vie. Eh oui, hein, donc aux différents articles que j'ai fait un tout petit peu avant. Donc comprenez que c'est indissociable. Si vous ne vous reconnectez pas à l'arbre de vie, eh bien votre soi supérieur pourra toujours communiquer avec vous, mais vous n'aurez pas, comme dirait l'autre, toute la géométrie nécessaire pour développer son plein potentiel. C'est un exemple pour vous faire comprendre que vraiment tout est lié. Ensuite, eh bien, je vous avais parlé aussi dans une autre. Je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais c'est vrai que comme vous regardez ça avec le temps et vous oubliez à fur et à mesure, en règle générale, je suis le premier hein, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, il faut que je regarde mes planches pour me souvenir que c'est. Je me dis, tiens, moi j'avais fait ça, tiens, ah oui. Et donc ici, eh bien, j'avais développé, entre guillemets, le côté absolu et relatif de l'apprentissage, et avec les différentes couches que nous avions, hein, mais bon, je ne vais pas tout refaire, et c'est là que je vous avais donc introduit la notion de biologique, la notion d'atomique et la notion de quark. Donc il y a des dimensions 1D, 6D, des dimensions 7D, 12D et des dimensions 13D, 24D. Et donc cette dimension ici de 1D, 6D, c'est du biologique pur, point barre. Alors que là, 7D, 12D, vous êtes au niveau atomique. Voilà pourquoi, quand nos chers scientifiques parlent de réaction nucléaire, ben, on est forcément à ce niveau-là. Et quand ils disent qu'il y a des trucs cosmiques, des catastrophes et des bouleversements cosmiques, au niveau ça vient vachement loin, ben, c'est que ça gigote beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire à l'intérieur même des atomes. Mais ça, ils ne comprennent pas encore. Hein. Mais bon, ils suivraient mes blogs, je pense qu'il y aurait des grosses découvertes. Mais c'est leur problème, c'est pas le mien. Donc ici, je fais la relation aussi, j'avais fait la relation entre le processus de l'ascension. Qu'est-ce que le processus de l'ascension? C'est celui d'augmenter sa fréquence, c'est-à-dire de remettre déjà en état le moteur de l'humain. C'est-à-dire en 3D, 4D, de faire qu'effectivement, il puisse se rééquilibrer entre sa polarité masculine et féminine. Mais c'est vrai que l'aspect de la Terre, on est un véritable prédateur, et l'aspect du ciel, on l'a complètement foutu sous forme de religion, qui est complètement nul dans le sens que on a inventé Dieu. Mais Dieu, il n'existe pas. Enfin, il existe pour les mondes de 3D, 4D, mais dans la réalité, c'est absolument une hérésie. C'est une hérésie, mais bon, hein. Quand on va dire, excuse-moi, attends, faut que je cause avec mon antimatière, l'autre, il va dire, ouais, là, franchement, il est pas clair, ce mec. Et donc, ce processus de l'ascension est un processus, on va dire, purement biologique, c'est-à-dire comment faire avancer sa biologie suffisamment. Or, vous savez que la biologie, nous sommes un sac de flotte. Et donc, comme nous sommes un sac de flotte, ça veut dire que la flotte que vous buvez est d'une importance capitale. Et donc, c'est pour ça que l'encodage petit poussé fait des miracles. Et donc, quand on essaye de mesurer avec des unités Bovis un peu comment ça se passe, eh bien, c'est un petit peu gênant parce que dans la réalité, vous savez que l'eau a 12 dimensions de mémoire, entre guillemets. Forcément qu'elle est totalement en relation avec votre ADN. Donc, d'un côté, votre ADN reçoit l'information via le prana. On est d'accord. Il va essayer de s'actualiser et l'eau va simplement enregistrer tous les changements qui sont en train de se faire. Donc, vous avez à ce moment-là, via l'eau encodée, un avantage d'avoir des programmes qui vous décrassent. Et via le prana, on va dire, les respirations elles vives, vous allez avoir un décrassage par rapport, on va dire, à l'antimatière. Donc, d'un côté, vous avez un décrassage au niveau de la matière, et de l'autre côté, vous avez un décrassage de l'antimatière. Et au milieu, vous avez votre ADN. Tout simplement. Donc ici, eh bien, on voit que votre ADN est, pour l'instant, enfin, on va dire la majorité des préhumains, en deux brins. C'est du biologique, c'est un aspect individuel qui dit « moi d'abord ». Et le reste, j'en ai rien à battre. Ok? Donc, le truc, c'est un aspect individuel, petit soi inférieur, c'est quelqu'un qui est dans le mental, et son statut, c'est un enfant. Et c'est pour ça que nous l'appelons l'enfant soi. C'est une autre façon d'appeler l'esprit directeur. Ouais, je vous fais un petit résumé, comme ça je sais que ça va vous faire du bien pour les anciens. Ensuite, eh bien, on passait au processus, donc une fois que vous avez ascensionné, eh ben, vous êtes un ressuscité. Enfin, vous rentrez dans le processus de la résurrection, excusez-moi. Donc une fois que vous avez, on va dire physiquement, dépassé ce stade, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir le moteur du ciel et de la terre qui vont effectivement prendre, devenir vraiment important. Hein, c'est-à-dire que vous allez reprendre une place d'humilité en disant « ouais, bah, je ne savais rien du tout, j'étais dans l'ignorance totale et je vais voir ce qui se passe ». Donc j'écoute mon corps et j'écoute toutes les intuitions qui m'arrivent et j'écoute forcément ma petite voix. Et donc, à partir de là, eh bien, vous pouvez comprendre que votre ADN est en 12 brins complets, c'est-à-dire que vous avez les 12, on va dire, brins d'ADN qui vont pouvoir développer leur information. Or, vous savez que ici, nous avons 7D12D1, hein, d'accord? C'est-à-dire que c'est le soi supérieur. Forcément le système solaire, comme je vous l'avais dit, et vous trouverez forcément ce fameux dodécaèdre. Donc, quand vous aurez déployé totalement votre dodécaèdre, parce que vous aurez commencé déjà à déployer et harmoniser complètement votre double tétraèdre, eh bien, vous allez être dans un processus, eh bien, d'immortalité, tout simplement. Et donc, vous aurez atteint d'abord, dans un premier temps, l'immortalité, si ensuite vous êtes un maître ascensionné, enfin bref, tout le beans. Hein. Ça, j'ai décrit aussi dans d'autres articles, mais j'y reviendrai, vous inquiétez pas, parce que je n'arrête pas de répéter toujours les mêmes choses. Le truc, c'est que quand on est dans ce principe-là, eh bien, vous allez arriver forcément un jour à passer en 13D, c'est-à-dire ici. Hein, et quand vous êtes en 13D, donc vous devenez en général dans ce qu'on appelle un Christ. Mais le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous serez un ressuscité. Et donc, bah, vous attaquerez ce niveau-là. Ça veut dire qu'au niveau atomique, vous aurez fait le ménage chez vous. Mais pour faire le ménage au niveau atomique, il faut aussi avoir fait le ménage sur le niveau biologique. Donc c'est pour ça que je vous disais, faites des respirations et vives, buvez de l'eau encodée, et ça va vous donner quand même un sacré goût de booster. Ensuite, eh bien, forcément, quand vous serez en contact avec votre soi supérieur, mais aussi ensuite après avec les autres entités, ce qu'on va appeler les EDL, hein, mais aussi les EDLN, eh bien, vous allez comprendre qu'ils sont là pour vous aider au niveau atomique. Tout simplement. Eh oui. Donc ici, eh bien, vous développez votre ADN 12 brins, c'est-à-dire que vous allez accéder à l'information qui est contenue en vous, elle n'est pas ailleurs. Et cette information, quand on dit tout est en nous, oui, tout est en nous. Mais en fait, c'est la vérité qu'il faut dire, le décodeur est en nous. Parce que l'univers, la source, envoie l'information en permanence. Et donc, si vous écoutez cette information, bien vous allez forcément agir dans le sens où le sans-nom a envie d'aller. C'est aussi bête que ça. Et donc, c'est forcément un aspect collectif et que ça va forcément concerner l'humanité, vous allez le voir. D'accord? Voilà, donc là, vous devenez majeur, c'est déjà pas mal, hein? Donc, quand on dit majeur, c'est-à-dire que on peut quand même encore se permettre que vous puissiez en faire encore quelques conneries, parce que bon, un majeur qui fait des conneries, il va quand même en taule. Mais quand vous êtes adulte, c'est là vous avez plus le droit de faire des conneries. Non, enfin, je veux dire, là, vous allez apprendre à devenir responsable, et là, vous allez être totalement responsable. Alors que lui, là, c'est un irresponsable. Et puis ensuite, eh bien, forcément, quand vous attaquez à ce niveau-là, quand vous ressuscitez, eh bien, vous allez attaquer à un niveau de maîtrise beaucoup plus grand. Et ce que bon, j'avais appelé à l'époque le processus de l'absolu. Hein, donc il est 8D, 13D, c'est-à-dire que vous allez travailler directement au niveau atomique. Car que quand vous ressuscitez, hein, dites-vous le bien, eh bien, vous recréez totalement la matière. C'est-à-dire, vous ne dites pas, ouais, je récupère les atomes qui existent déjà. Vous allez tout simplement les refabriquer directement. Ce qui veut dire que vous serez propre au niveau atomique. Et donc, un véritable Christ peut changer tout ce qu'il veut sur la planète. Totalement. Il fait ce qu'il veut, puisque de toute façon, il peut recréer n'importe quoi sur la planète. Donc, vous voyez qu'on a de quoi s'amuser, il y a encore de quoi faire. Il y a encore de quoi faire. Enfin bon, hein, c'était juste pour vous donner un ordre d'idée. Et là, bah, j'avais mis 5 et 6D. En fait, ici, j'avais mis quark. Mais dans la réalité, ça commence déjà ici, à hein, ce niveau-là, hein, puisque c'est le développement de l'écosahel. Vous allez commencer à découvrir, bon, bien sûr, forcément, l'aspect solaire des choses, on est d'accord. Et vous allez donc devenir une entité, bien sûr, du système solaire. Vous verrez l'aspect universel, c'est-à-dire que vous irez tous dans la même direction. Hein. Là, c'est plus un aspect collectif par rapport à l'humanité, c'est un aspect collectif par rapport à la galaxie entière. Hein, pas seulement le système solaire. Mais bon, si vous êtes déjà au niveau du système solaire, vous suivez forcément l'information qui est donnée par le Soleil central. Et donc, tous les soirs sont réunis. Voilà. Et donc, là, vous avez un statut d'adulte. Voyez, bon. C'était juste un petit complément que je voulais vous faire pour vous faire remboîter un peu les poupées russes, parce que là c'est la rentrée comme on dit. Et je vais m'arrêter là parce que je serai intarissable. Mais sachez que plus nous allons avancer dans l'explication des choses, et plus tout ce dont j'ai parlé depuis ces dernières années vont s'emboîter les uns aux autres. Ils disent, mais c'est une évidence. Mais pourquoi on n'avait pas compris ça? Pourquoi on ne voyait pas ça avant? Parce que tout simplement, vous n'étiez pas suffisamment décrassé par rapport à ça. Hein, c'est comme pour les classes, quand vous êtes à l'école, eh bien, quand vous avancez dans les classes dites supérieures, vous ne faites qu'aller un petit peu plus en profondeur dans les choses et en vous rapprochant de plus en plus, on va dire, de la véritable chose. Mais vous ne pouviez pas en parler dans les classes, on va dire, précédentes, parce que c'était trop intellectuellement. C'était impossible aux gens de pouvoir conceptualiser, c'est trop compliqué, trop complexe. Donc, il y a un temps pour tout. Donc, plus nous allons avancer, plus, on va dire, le nouveau paradigme se met en place, ce nouveau monde se met en place, plus nous allons effectivement mettre les pieds physiquement dans le 4D. Hein. Et plus à ce moment-là, tout ce que je vous raconte va vous devenir une évidence. Voilà, bien. Eh bien écoutez, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine. Salut!